avec nos invités au téléphone d'Africa Radio, donc pour ce petit bilan concernant le Covid-19, c'est la partie prévention en partenariat avec Santé publique France. Avec nous au téléphone d'Africa Radio, le docteur Massamba Sassoum Diop, il est président de SOS Médecins Dakar et de la Société sénégalaise d'anesthésie, de réanimation et de médecine d'urgence. Il exerce également à Paris auprès du SAMU. Merci beaucoup, docteur, de vous être rendu disponible au téléphone d'Africa Radio. Bienvenue. Vous accompagne le docteur Isabelle Bonmarin, responsable de l'unité prévention des risques infectieux et environnementaux chez Santé publique France. Elle est aussi au téléphone de la radio africaine. Est-ce que vous nous entendez tous les deux? Est-ce que tout va bien? Bonjour.
Tout va bien, oui, on va très bien.
Oui,
bienvenue,
moi aussi,
alors, merci bien beaucoup. En France, l'épidémie de coronavirus Covid-19 poursuit sa progression. Le dernier bilan officiel est de 264 décès et 9134 cas de contamination. Le président Emmanuel Macron a pris des dispositions à la télévision pour annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie. Le chef de l'État a parlé de guerre sanitaire. Alors, seuls les déplacements absolument nécessaires sont autorisés. Que pensez-vous de ces mesures? Un confinement est-il possible pour pouvoir freiner la progression du virus? On en parle avec nos invités. Et n'hésitez pas également, si vous avez des questions, si vous voulez nous raconter vos histoires sur la thématique, n'hésitez pas à nous rejoindre au standard d'Africa Radio tout au long de cette émission Prévention 01 55 07 58 0. D'abord, les chiffres et le bilan. Ce dernier bilan officiel qui comptabilise, donc, on le disait en début d'émission, 264 décès et 2134 cas de contamination. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les commentaires que cela suscite? Que disent ces chiffres? Bonjour, on va peut-être commencer avec vous, docteur Massamba Sassoum Diop. Bonjour.
Oui, bah en fait, bonjour. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a l'avantage, si j'ose dire, d'avoir... les courbes qu'on a eues en Chine et celles qu'on a en Italie et qui permettent un petit peu de savoir, et on a aussi un peu ce qui se passe en France, mais dans l'Est de l'Afrique, qui permet de savoir vers quoi on va. Et c'est la raison pour laquelle le président Macron a décidé de faire ce confinement, parce que impérativement il faut essayer d'aplatir un petit peu ces courbes, et on sait que de toute façon il y a une inertie et qu'il faudra au moins 2 à 3 semaines pour avoir l'efficacité de ces mesures. Et pour éviter la saturation complète du système sanitaire en France, il faut impérativement avoir ces décisions. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'à Wuhan, c'est environ 1,1% de la population qui a été touchée,
oui,
sur la population globale. Donc, ce qui fait à peu près, si on ramenait ça en France, environ 660 000 personnes. Et on voit que c'est sur cette population-là qu'il y a ensuite les chiffres avec la mortalité qu'on a environ de 2,5%, 98% quasiment qui survivent. Donc, en fait, le but, c'est justement d'arriver à ce que ce soit d'une part raisonnable, bien évidemment, d'arriver à contrôler cette épidémie et que les systèmes d'urgence de réanimation ne saturent pas. Et l'autre problème que l'on a là actuellement, enfin, ce qui est intéressant aussi, si vous regardez les chiffres en Italie, vous apercevez que de 0 à 30 ans, il n'y a eu personne, aucun décès. Pas personne d'atteint, bien sûr, aucun décès, par contre, qui transmettent. Et ensuite, de 30 à 40, on a 4 personnes, donc c'est environ 0,25%. Et puis ensuite, ça monte progressivement. Et à partir de 45-50 ans, on commence à arriver à 2,5% jusqu'à 60 ans. Et puis ensuite, on monte à 8, puis 12, puis 19%. Donc en fait, vous voyez cette progressivité au niveau des âges, et c'est pour ça qu'aussi on s'aperçoit qu'en France, il y a ces âges-là, c'est ce qui commence un peu à ressortir dans les chiffres. C'est ces âges-là, entre 45 et 60 ans, qui sont aussi présents, puisqu'on parlait beaucoup des personnes qui avaient plus de 80 ans, mais
ouais,
on s'aperçoit que bien sûr, c'est tout le monde.
Et d'ailleurs,
je pense que si je vais peut-être laisser parler la personne de Santé publique France.
Et d'ailleurs, parmi les personnes qui sont en réanimation, 931 patients, on dénombre la moitié de ces personnes qui sont âgées de moins de 60 ans.
Oui, c'est ça. Exactement, c'est ce que je vous disais un petit peu, mais surtout entre 45 et 60. Hein, ce n'est pas des 0 à 30 ans. Ce sont 45 à 60 ans. Et l'étude est en train de se faire. Il faut être extrêmement humble hein, actuellement. Enfin, déjà, il faut l'être toujours. Mais là, on apprend chaque jour. C'est-à-dire que c'est bien N coronavirus, c'est-à-dire que donc c'est à nouveau. Et chaque jour, on apprend en fonction de ce qu'ont fait les autres et de ce que nous, nous faisons. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et effectivement, de ce point de vue-là, il semble que des personnes avec un certain facteur de, certains facteurs de risque, hein, donc plus jeunes, 45-60 ans, soient aussi touchées.
Alors Isabelle Bonmarin, est-ce que ces chiffres sont un motif d'inquiétude pour Santé publique France et les autorités de santé ?
Ces chiffres confirment l'augmentation forte qu'on avait observée ces derniers jours et justifient les mesures qui sont mises en place pour essayer de freiner cette progression qui est assez exponentielle.
Alors justement, le gouvernement a autorisé l'instauration d'un état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que c'est un état d'urgence sanitaire, Isabelle Bonmarin ?
Bien voilà, cet état d'urgence sanitaire montre des dispositions tout à fait exceptionnelles et qui n'ont jamais été prises dans notre pays pour essayer de lutter tous ensemble contre l'épidémie.
Alors, docteur Massamba Sassoum Diop, toujours concernant le cas de la France, est-ce que les mesures qui ont été prises par le président de la République sont nécessaires ? Est-ce qu'il aurait dû aller plus loin, selon vous ?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller beaucoup, beaucoup plus loin. À partir du moment où on fait un confinement, on met l'armée dans la rue, la police, et qu'on demande aux citoyens d'être justement, d'avoir une attitude citoyenne. Je pense que on a déjà on peut pas aller plus loin. Après la discussion, mais c'est très complexe, hein, c'est de savoir à quel moment le déclencher. Je pense que les pays africains, et c'est ça qui va être intéressant, je pense que les pays africains vont le déclencher du coup plus tôt. Parce qu'encore une fois, on s'aperçoit maintenant que c'est ce qu'il faut faire pour finalement se retrouver dans la situation. Vous avez vu de la Chine aujourd'hui qui déclare en termes, non pas de cas importés, mais de cas autochtones, a priori, pas un seul hier. Donc en fait, vraiment le but, c'est d'arriver à ça. Et donc la décision, je vous dis, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait là, puisque c'est le confinement maintenant.
Alors justement, en quoi le confinement est-il une des mesures les plus, la mesure centrale pour endiguer la progression du Covid-19 ? Expliquez-nous un peu le processus. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on demande aux Français de se confiner ? Alors dites-nous un petit peu le processus.
À qui vous posez la question ?
À moi ? À vous, allez-y docteur.
D'accord. Donc... En fait, la raison du confinement, c'est pour bloquer. Vous savez que la grippe normale transmet il y a une personne transmet à une autre personne. Sur le coronavirus, on s'aperçoit qu'on est à 1 pour 3 à peu près. Et donc, le but de faire ce confinement, c'est de bloquer cette transmission-là, impérativement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes chez vous et que quand vous sortez, vous êtes plus de 2 mètres de quelqu'un et que vous sortez le moins possible, forcément, vous coupez la chaîne de transmission. Et c'est effectivement cette logique-là que l'on a. Par contre, tous les services qui permettent la vie de la population, hein, c'est-à-dire, on s'en doute, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est ce qu'on appelle le support hein, pour que la population puisse continuer à vivre, tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est soins, tout ce qui est logistique, en fait, est maintenu. Mais donc, le but, c'est vraiment de couper cette chaîne de transmission, et c'est pour ça qu'il y a une efficacité qui est, je dirais, redoutable, mais décalée dans le temps, puisqu'en fait, ceux qui sont déjà contaminés, il y en a qui n'ont pas les symptômes, il y en a qui vont les avoir, il y en a qui sont en train de décompenser. Donc en fait, il y a cette inertie par rapport à ceux qui ont déjà été contaminés et qui vont ensuite déclencher la maladie. Que l'effet est retard.
Alors je suppose également que toutes les personnes qui n'ont pas entendu, ou en tout cas respecté les mesures de confinement, on a vu le week-end dernier les Parisiens sortir dans les parcs, est-ce que ces personnes mettent en péril ce confinement et les dispositions qui sont prises ?
Oui, alors je crois effectivement c'est très important que l'effort collectif soit suivi par tous. Hein. Alors je suis désolée, j'entends assez mal les interventions de
notre
invité. Oui. Donc j'espère que je ne vais pas me répéter ce qu'il a dit, mais on sait que la transmission se fait par les gouttelettes infectées, soit quand on rencontre quelqu'un qui est malade et que cette personne transmet ses gouttelettes infectées via la toux, via des éternuements ou même une simple discussion. Mais la transmission peut se faire également par des objets qui ont été contaminés par ces gouttelettes de salive infectée. Ouais. Ce qui est important, c'est de bien maintenir ce confinement, de rencontrer le moins de gens possible, de rencontrer aussi le moins de ces objets qui auraient été contaminés par des personnes infectées. Donc le confinement est très très important. On peut quand même continuer à faire ses courses, aller en pharmacie, etc., etc. Mais dans tous les cas, il est toujours hyper important de respecter cette distanciation sociale et de maintenir au moins 1 mètre de distance avec les personnes qu'on rencontre. Alors, et ça, c'est fort, il est collectif, il est important que chacun le fasse. Des personnes, notamment, quand on va chez le boulanger, on est bien content qu'il y ait du monde pour nous servir et nous permettre d'avoir des alimentations, etc. Donc ces personnes-là ne peuvent pas rester chez elles. Et pour les protéger, pour continuer à maintenir, à faire en sorte que ce service puisse être maintenu, il est important que toutes les personnes qui, elles, peuvent rester à la maison le fassent.
Alors, on parlait justement du fait qu'on puisse encore aller faire ses courses, aller chez le médecin, au bureau, également avec une autorisation. Alors, est-ce qu'on doit, dans ce cas, lorsqu'on va faire ses courses, par exemple, porter un masque lorsque l'on en a un, ou se couvrir le nez et la bouche avec une écharpe, un foulard? On a vu également des recommandations à la télévision de médecins qui disaient que l'écharpe, lorsqu'elle est bien... on va dire bien appliqué jusqu'au-dessus du nez, que ça pouvait être une mesure barrière. Alors, comment on doit se préparer à sortir pour aller faire ses courses, docteur Massamba Sassoum Diop?
Alors, il est clair, les masques, c'est avant tout, un, pour le patient dont on est sûr qu'il est atteint, donc qui tousse, qui a des gouttelettes, comme le disait ma collègue, et donc avec le fait qu'il va projeter. Et pour le soignant, avant tout, ce sont ces deux personnes qui doivent avoir un masque.
D'accord.
Et en fait, si on se promène, si on va faire ses courses, si on fait quelque chose qu'on doit aller faire, si on va au travail, ce qu'il faut, c'est simplement respecter les distances. C'est ça le plus important. C'est ces attitudes-là qui entraînent le fait qu'on a une pénurie de masques, alors que très honnêtement, à partir du moment où on respecte bien, mais ça veut dire juste bien respecter les consignes qui ont été données, on n'a pas ce problème de transmission. Après, il y a le lavage des mains. On ne salue pas les gens. Pour aux surfaces que l'on touche et tout, il y a tout ce qui est concerne le lavage des mains qu'il faut avoir. Lorsqu'on est perdu, on a dit dans le coude. Mais donc, c'est ces mesures-là qu'il faut faire. Maintenant, de voir toute la population. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, si finalement il y a pléthore de masques, pourquoi pas en porter. Mais en tout cas, ce ne sera pas... c'est pas la mesure la plus importante par rapport aux gens qui vont travailler ou qui sont dans la rue s'ils respectent les distances. Ce sont ceux qui sont malades et les médecins, tous les soignants, c'est pas que les médecins bien sûr, c'est tous les soignants, tous ceux qui travaillent au contact avec les patients.
Isabelle Bonmarin, alors est-ce qu'on peut sortir faire ses courses après 18h puisque le couvre-feu c'est 18h, est-ce qu'on peut après tenter d'aller faire ses courses?
Écoutez, là, c'est en fonction des heures d'ouverture des magasins. Ce qui est important, c'est de toute façon toujours respecter les stations sociales là, dont on vient de parler et de faire en sorte d'avoir toujours cette distance avec les gens qui feraient les courses en même temps que vous.
Alors, est-ce qu'on peut sortir de chez soi pour faire un peu de sport ou se promener avec ses enfants, par exemple?
Ça reste toujours Ouais, je pense que ça reste effectivement toujours très important de maintenir une activité physique, hein. C'est bon et pour le physique et pour le moral. Mais toujours la même chose, on ne fait pas ça par groupe d'amis, on évite tout rassemblement et là c'est plus le sport individuel.
Docteur Massamba Sassoum-Diop, on en voit beaucoup d'informations circuler sur les réseaux sociaux avec de nombreuses fake news notamment. Alors concernant, par exemple, moi j'ai vu une info qui disait éviter de prendre du paracétamol puisque ça aggrave la situation lorsque l'on est infecté par le virus. Est-ce que vous confirmez cette information?
Alors là, quand on parlait de fake news, c'est une énorme fake news. Ce qui a été dit, il faut être très clair dans ces messages-là, ce sont les anti-inflammatoires qui posent
Ouais.
problème. C'est-à-dire qu'en fait, l'inflammation, c'est la défense du corps contre les virus, contre les bactéries. Donc, si on prend un anti-inflammatoire, on empêche le corps de se défendre. L'anti-inflammatoire, c'est quoi? Ce sont les corticoïdes, par exemple, typiquement l'ibuprofène, qui va être pris aussi pour traiter la fièvre. Mais dans ce cas-là, effectivement, on ne doit pas, parce que ce qui s'est passé, entre autres, c'est une des causes chez les jeunes, ça a entraîné, une fois que vous avez débloqué, c'est-à-dire que vous arrêtez l'anti-inflammatoire, vous avez un orage, ce qu'on appelle cytokinique, c'est-à-dire que vos défenses se mettent à avoir une violence, qu'elles détruisent, si j'ose dire, tout. Là, j'essaye d'être schématique. Mais ça
Ouais.
veut dire qu'en fait, ce sont des traitements comme les anti-inflammatoires qu'il ne faut pas prendre. Attention, si vous avez des anti-inflammatoires pour une maladie chronique, vous
Ouais.
voyez votre médecin pour voir s'il faut ou non continuer. Parce qu'un certain nombre de fois, il faut les continuer, mais du coup, il faut s'isoler encore plus. Mais de se dire, pour traiter la fièvre, je prends un anti-inflammatoire, non, mais je prends du paracétamol, c'est oui, 1000 fois oui. C'est le seul traitement qu'on a pour traiter la fièvre. Et en aucun cas, à dose normale, c'est toxique. Par contre, vous ne devez pas en prendre 5 grammes, 6 grammes, 7 grammes. Vous devez en prendre 3 grammes par jour. Toutes les 8 heures, vous prenez votre paracétamol. Et c'est ce qu'il faut faire pour traiter la fièvre. Après, il y a une autre notion, mais qui est complètement différente, c'est que
Ouais.
la fièvre, c'est la défense. Ce sont nos défenses. Donc, si vous supportez un 39 de fièvre, que vous n'avez pas d'antécédent d'épilepsie liée à la fièvre et des choses comme ça, c'est pas gravissime. Vous savez, il y a l'air de grand-mère qui disait, je me mets sous une couverture, sous un édredon, je laisse monter la température et le lendemain, c'est réglé. Quand c'est bactérien, surtout pas, parce que c'est la bactérie qui gagne, mais quand c'est viral, c'est tout à fait concevable. Donc, on traite la fièvre quand on a besoin de la traiter, paracétamol, pour avoir un meilleur confort. Voilà en résumé.
Alors justement, il va nous rester quelques minutes pour parler un peu du cas de la situation sur le continent africain avec vous, hein, docteur Massamba Sassoum-Diop. Alors on voit apparaître de plus en plus de cas dans nos pays africains. Alors est-ce que l'Afrique est taillée? C'est une phrase qu'on a beaucoup entendue, et notamment parmi les Africains de France, qui considèrent que ce virus ne les concerne pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Alors, non seulement c'est une erreur, je ne veux pas dire ridicule, je dirais c'est une erreur c'est parce que les gens sont mal informés. Je vais vous donner un exemple très simple. Le deuxième et le troisième cas au Sénégal, ce sont
Oui.
des Galets de France, 80 ans et 68 ans, qui ont été contaminés à Sarcelles et qui sont allés pour un enterrement. Et une fois à Dakar, ont déclenché la maladie. Donc déjà, c'est ridicule, mais surtout, on le voit là. La grande majorité des cas aujourd'hui au Sénégal, sur les 30, il y a eu 36 cas, dont 34 encore hospitalisés et aucun décédé. Pardon, la grande majorité sont des cas, sont des patients qui sont sénégalais. Donc c'est ridicule. C'est simplement que ce qu'il a fallu tant pour le virus de partir de Chine, il n'y a pas de vol direct Chine-Afrique. Donc il a un passager normal, il a fait une escale,
D'accord.
des escales. Il a fait des escales là où il y avait donc les passagers qui descendaient, à savoir essentiellement en Europe. Il s'est développé. Et ensuite, eh ben, il continue son voyage et maintenant, il descend en Afrique. Et si on ne prend pas les mesures, on voit les courbes, on voit les chiffres. Hein. Tout doucement, là, on est aux alentours d'une trentaine, donc à 36 au Sénégal. Vous prenez les courbes et vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre effectivement toutes les décisions. C'est d'ailleurs ce qu'est en train de faire, entre autres, les différents gouvernements et le gouvernement sénégalais. On le voit bien, les mesures sont de plus en plus restrictives pour être sûr de ne pas se retrouver sur cette ascension.
Alors, est-ce que le continent africain aurait les moyens de se sortir de cette situation si le virus se propageait encore plus sur le continent ?
Alors, je pense que ma collègue de Santé publique France sera d'accord. C'est avant tout la prévention, parce qu'il est clair que les moyens de réanimation. Heureusement, il ne faut pas oublier que la plus grande partie de la population, hein, la grande majorité, 98%, survivent. Maintenant, il y a ceux qui sont des cas graves, qui sont aux alentours de 14% de cas à hospitaliser et 5% de cas très graves. Ce sont ces patients-là qui vont saturer les systèmes de santé, et il est clair que les systèmes de santé sont moins développés en Afrique qu'en Europe. Donc c'est la crainte que l'on a, c'est celle-là, c'est que on va se retrouver, même si la population est globalement plus jeune, donc ça aussi c'est un facteur qui est plus rassurant, oui. Puisque ça touche moins les jeunes, au bout les systèmes de santé vont être complètement saturés et vous trouvez à ce que même la personne qui vient, par exemple pour une, je sais pas, un accident de la route, une crise d'asthme, un problème cardiaque, ne pourra même pas être soignée ou en tout cas aura des difficultés à avoir accès aux soins. Ce sont des effets collatéraux, en fait. Et c'est ça que l'on craint le plus.
Est-ce qu'une situation à l'italienne ou à la française est envisageable sur le continent, selon vous, docteur ?
Ah ben, je pense que bien plus que à partir du moment où vous saturez complètement, il vous suffit de voir le nombre de places qu'il y a en réanimation dans les différentes capitales africaines. Je ne parle même pas des villes secondaires. Oui. C'est pour ça qu'en fait, il est important gérer avant, parce que sinon on risque d'avoir une vraie saturation du système. Donc oui, je pense que c'est exactement le profil de ce qu'on risque d'avoir, et probablement majoré, puisqu'il y a moins de systèmes de soins.
Alors, docteur Isabelle Bonmarin, on va revenir sur le cas de la France. Des dernières recommandations à donner à nos auditeurs, restez chez vous le plus souvent possible. Et puis, lorsque vous sortez, les gestes barrières, donc à ne surtout pas oublier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, Isabelle Bonmarin ?
Eh bien, voilà, les gestes barrières, alors que le confinement fait partir, garder toujours un mètre de distance avec les rares personnes qu'on rencontrerait, se laver les mains.
On voit que c'est compliqué à mettre en place lorsqu'on regarde des vidéos sur Internet où il y a un peu quand même d'incivilité de la part des Français.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai aussi qu'il y a de l'éducation à faire, et, ouais. Et j'ai vu plusieurs fois des personnes intervenir dans des queues en demandant à leurs voisins de s'écarter d'eux. Et voilà, je crois que c'est le rôle de chacun, à la fois d'appliquer ces mesures et de les faire appliquer aussi, même si, ben voilà, c'est des changements d'habitude qui sont pas faciles à mettre en place toujours. Alors là, donc, mais ça, c'est vraiment très important. Le lavage des mains, ça, on le répétera jamais assez. Donc, c'est laver les mains très fréquemment, c'est 6, 7, 8 fois par jour, autant de fois que nécessaire à chaque fois.
Même lorsque l'on reste à la maison sans sortir ?
Même, parce que on peut aussi être porteur du virus sans s'en rendre compte. Hein. Alors quand on est malade, ça paraît plus une évidence. Mais même quand on n'a pas de symptômes, on peut être porteur de la maladie. Donc pour protéger les gens qui vous entourent, les gens qui vous sont chers, qui sont dans votre foyer, il est important de laver les mains fréquemment.
Alors, docteur Massamba Sassoum Diop, pour conclure, quelles sont les dernières recommandations que vous avez envie de donner aux auditeurs qui nous écoutent ce matin sur la radio africaine ?
Entre les mesures que vient de rappeler ma collègue, qui sont les lavages de mains, éternuer s'il le faut, le coude, le fait de porter quand on tousse donc un masque, je dirais de commencer son autoconfinement, même si l'État l'a pas encore décrété. Je pense que maintenant, à chaque citoyen, aujourd'hui, d'avoir plutôt tendance à sortir le moins possible, à faire que ce qui est essentiel et surtout à diffuser les bonnes informations. Il faut arrêter. Moi, je viens de recevoir, vous voyez, de quelqu'un qui, là, pendant qu'on parlait, qui m'envoie par WhatsApp, message UNICEF, il faudrait se gargariser à l'eau salée, il faut boire de l'eau chaude. C'est écrit comme si c'était une information UNICEF. Hein. Prenez de l'eau chaude, ça va brûler le. En plus, avec des termes qui ne sont pas du tout, bien évidemment, ça va brûler le virus. Et au début, il vous donne des éléments qui sont vrais. C'est-à-dire que la technique, elle est là. Les deux premières phrases, elles sont vraies. Et toutes les autres derrière, c'est du n'importe quoi. Et ça, je vous assure, écoutez les émissions pour les auditeurs, les émissions où il y a des médecins, des épidémiologistes, des infirmiers, des gens qui sont dans la santé, qui vous disent ce qu'il faut faire. Ne regardez pas, arrêtez de lire. C'est pas parce que c'est écrit sur le net que c'est vrai. Souvent, les gens, parce que c'est écrit, c'est vrai. Et là, c'est du n'importe quoi. Ce que vous m'avez dit sur le paracétamol, où il fallait pas le prendre, au contraire. Et là, ce que je viens de voir, faites des mesures d'isolement, respectez chacun, ne vous affolez pas non plus, surtout, ne soyez pas, que chacun ne se dise pas, parce que je commence à être enrhumé, je suis mort dans 15 jours, rien à voir. Donc c'est vraiment ces mesures-là, et rapprochez-vous des soignants pour les bons conseils.
Merci beaucoup, docteur Massamba Sassoum Diop. Je rappelle que vous êtes président de SOS Médecins Dakar et de la Société Sénégalaise d'Anesthésie de Réanimation de Médecine d'Urgence. Vous exercez également à Paris auprès du SAMU. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Docteur Isabelle Bonmarin, merci également à vous. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité prévention des risques infectieux et environnementaux chez Santé Publique France. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Pour les auditeurs de la radio africaine, on vous souhaite une très bonne journée.